Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
Exactement, pour cette nouvelle émission de Making of, Retour du Jedi, la post-production.
Tout à fait, on vous avait laissé un petit bout de temps, histoire de préparer cette post-production de l'épisode 6, mais nous revoilà.
Et oui, nous espérons effectivement que ce sera à la hauteur des attentes, et merci de votre fidélité.
Oui, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes Margot et Martin, un duo de vilains français passionnés comme vous par Star Wars.
Exactement. Quoi de neuf justement dans l'univers Star Wars ? Eh bien, avec Margot, on s'est lancé dans le grand marathon final.
Exactement. Nos soirées sont consacrées aux divers épisodes. Et on essaye de ne pas se faire avoir par les nombreux divulgateurs qui veulent déjà nous parler de l'épisode 9, Martin.
Exactement, exactement. Nous avons donc fini l'épisode 1 à l'heure à laquelle nous parlons. Et on va aller jusqu'au bout pour bien le 18 décembre. Ça va être terrible.
Alors, peut-être est-ce le moment de remercier nos partenaires.
Tout
mais
à fait.
Avant cela, figurez-vous que si vous êtes fan de Star Wars et fan de Star Wars en direct...
Comme nous,
il y a une jolie boutique à laquelle vous pourrez vous approvisionner et éventuellement regarder, écouter cette émission tout en regardant The Mandalorian avec un formidable t-shirt à notre effigie. Ça nous ferait très très plaisir, surtout envoyez-nous des photos.
Alors à l'effigie de Star Wars en direct, je précise, pas à l'effigie de Margot et Martin, l'adresse de la boutique starwars.direct/boutique. Remercions nos partenaires, Margot.
Tout à fait. Nous remercions donc Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, StarWarsUniverse.com, PlanetStarWars.com, Star Wars Geek Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science Fiction.
Alors, prêt à passer en hyperespace ?
Je te suis, Martin.
Oh crap ! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Juin 1982, le film passe en post-production.
Ça y est.
Le contexte est un peu particulier, puisque ILM vient de terminer trois films de poids, E.T. l'extraterrestre, Poltergeist et Star Trek 2. Trahison ! Les équipes, selon Denis Muren, l'un des cadres de la société, sont déjà au bord du burn-out lorsque le retour du Jedi est intégré au calendrier des projets.
Le burn-out, le mal du siècle, mais apparemment aussi du siècle précédent. La motivation reste tout de même au rendez-vous, puisque les équipes s'appuient sur une expérience et une expertise importantes de gestion des post-productions exigeantes. On se souvient déjà de ce qui s'était passé pour les épisodes 4 et 5. 140 personnes sont mobilisées en tout dans les différents départements. Il y a évidemment les équipes caméra, les équipes modem shop, les équipes optique et animation.
Trois chantiers sont d'ores et déjà fixés, cher Margot. Le désert du début du film, l'intérieur et le réacteur de l'étoile de la mort d'une part, et les batailles spatiales d'autre part.
Spatial battles.
Exactement. Et finalement, le rancor et la chasse à moto d'Endor pour terminer.
Et oui, l'esprit de corps émerge progressivement alors que le travail débute. Et oui, vous savez combien c'est important le team building. Avec une meilleure organisation que celle des deux précédents films, il faut bien l'admettre, et des équipes plus jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 28 ans.
Exactement.
Pour ce qui est du budget, 10 millions de dollars figurent au budget total, et on compte en effet 22 000 dollars en moyenne par plan travaillé avec effets spéciaux.
L'équivalent de notre salaire annuel.
Évidemment.
Concernant le montage, Lucas est très clair auprès de Richard Marquand, le réalisateur. Il n'interviendra qu'à partir du premier visionnage du montage du film, quand ce sera la catastrophe.
La diva.
Ben Burt, le sound designer, le fameux, est déjà mobilisé depuis 6 semaines à la création de 1000 effets audio attendus.
Ça en fait de la musique assistée par ordinateur. La méthode, elle, est toujours la même. Il y a un superviseur qui est évidemment, vous vous en doutez, Ben Burt. Et lui, il est en charge de créer les trois étapes clés du son. Collecter des sons, éditer les sons pour les transformer un peu, puis le mixage final. Et le défi principal réside dans la création des voix des aliens qui sont nombreux dans le palais de Jabba.
1er juin, donc, un chantier s'ouvre sur la bataille de Jabba, en tout cas sur son arche. La motivation est boostée par l'immense succès des trois films dont ILM avait la charge, particulièrement E.T., qui est un succès surprise.
Et oui, on reste dans l'espace. La chasse à Spider sur Endor s'appuie sur des plans qui sont réalisés en steadicam lors du tournage.
Et oui.
Et des plans supplémentaires sont réalisés sur le lieu du tournage, qui est le parc national de Redwood, en Californie. Et ces plans sont réalisés par ILM.
Et oui.
Il faut dire que le montage des plans en accéléré est assez audacieux, puisqu'il se constitue, tenez-vous bien, d'images filmées en temps réel toutes les 1,3 secondes. Chaque image est distante de 21 mètres de celle où a été filmé le plan précédent.
Oui.
Tant et si bien que l'assemblage à 24 images par seconde, si vous êtes fort en maths, vous aurez tout compris jusqu'ici, moi pas vraiment. Tout cela en tout cas donne une impression de vitesse que l'on retrouve dans le film.
Exactement, on va se refaire la scène pour le plaisir. À la fin du mois de juin, déjà les progrès sont constants et la post-production avance à bon rythme. Peut-être est-ce cela est-il dû au barbecue organisé à minuit par ILM pour faire le changement entre les équipes de jour et de nuit, vraiment, ça donne envie, cette société.
Mais c'est pas parce qu'il y a des barbecues qu'il commence pas à y avoir des petits soucis.
Ah bon ?
Et justement, les problèmes pointent le bout de leur nez.
La viande est trop cuite.
Non, c'est même pas ça. Lorsque les équipes des différents départements réalisent que les storyboards originaux ne collent pas du tout avec ce qu'elles sont en mesure de réaliser et de produire comme image augmentée.
Les dessinateurs sont donc conviés à retourner dans les bureaux et travailler main dans la main avec ces équipes, conscientes qu'il ne reste qu'une année pour achever ce qui doit être achevé, fini le barbecue. Lucas s'investit davantage donc dans la société d'effets spéciaux que sur le montage et reste donc très présent finalement.
L'été 1982, année de la post-production, est synonyme de nouveaux plans tournés par ILM pour alimenter le montage final. Le premier Star Wars, épisode 4, ressort au cinéma, ce qui permet d'engranger quelques précieux 11 millions de dollars pour poursuivre la post-production. C'est quand même très pratique d'avoir ce genre d'outils à disposition.
On va ressortir notre CD, Nanoute. 19 août 1982, Richard Marquand souhaite montrer une première version à George Lucas. Howard Kazajian, qui est le producteur et quelques autres privilégiés, c'est donc le fameux moment de la première séance. 127 minutes sans aucun effet spécial terminé. Ça doit être brillant. Après le premier visionnage, l'assemblée est mitigée. Et Lucas décide donc de passer un peu plus de temps dans la salle de montage que prévu.
Nous sommes maintenant à la fin du mois d'août et ILM est plus occupé que jamais. L'entreprise apprend petit à petit à se structurer avec l'apparition de meetings chaque matin. 40 personnes sont mobilisées donc tous les matins. Et des centaines de storyboards sont accrochés au mur. Les dailies, ça veut dire les plans réalisés, sont vus et revus pour être corrigés.
Les derniers effets sur la scène de poursuite à moto d'Endor sont achevés début septembre 1982. L'équipement Steadicam est loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, hein, comme on l'avait pu l'expliquer lors de l'émission précédente. Et Garrett Brown, l'inventeur du procédé, a lui-même énormément de difficultés physiques à aller au bout du tournage. Pensez-vous bien, cet homme portait tout cet attirail de caméras et de machines.
Alors, on est à 3 jours de tournage réalisé pour 40 000 dollars de budget, avec une moyenne de 5 à 6 plans par jour. Donc, vous pouvez voir, c'est pas une grande efficacité. Après tout, c'est ça, le cinéma.
Exactement. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Dans la rentrée 1982, le barbecue est cassé. Le département monstre a dépassé son budget initial de 67%, s'expliquant donc par la très difficile scène du puits du Sarlacc, qui engendre beaucoup d'heures supplémentaires et de retouches.
Et ce n'est pas tout, parce que 25% des plans prévus sont véritablement filmés à cette date. Et tout ça, c'est loin d'être l'objectif initial qui avait été fixé. Les effets burn-out des films précédents se font plus que jamais sentir.
Étant précisé, cher Margot, que beaucoup d'employés n'ont même pas le droit de lire le script par peur de spoilers sur la planète Terre. Déjà à cette époque, la confidentialité est maîtresse. Et un des employés souhaitant transmettre un message à George Lucas un jour, pénètre dans la salle de montage et découvre la scène où Luke révèle à Leia leur lien de fraternité.
C'est ce qui s'appelle tomber à pic, sauf que lorsque Lucas se rend compte que cet employé est avec lui dans la salle, il s'approche de lui d'un air très menaçant et lui dit sans plus de manière I will kill you if you tell. Heureusement que David Prowse n'était pas dans la salle, rassurez-vous.
Effectivement, les secrets sont révélés donc petit à petit in fine. Cette scène dont nous venons de parler, la mort de Maître Yoda, Les employés d'ILM ont aussi le sentiment que les choses ont changé, que Lucas ne leur donne plus le feedback impliqué qu'ils avaient connu sur les précédents films.
Alors les explications à ce silence viendront plus tard, puisqu'on apprendra que Marcia Lucas souhaitait divorcer de son mari à ce moment-là. Et nous savons que ce cher George est un être émotionnel très sensible. Et il est loin de s'attendre à cette annonce, donc il est un petit peu bouleversé.
Vous êtes-vous déjà demandé comment crée-t-on une carbonite qui se désintègre afin de mieux apercevoir le héros favori de Margot ?
Harrison !
Exactement. Le tournage n'a pas été propice à la réflexion d'une méthode concrète à ce sujet. On s'était donc dit, on va faire ça plus tard.
Phil Tippett, qui est aujourd'hui l'un des gourous des studios, a une idée formidable. Il recrée le visage de ce cher Harrison Ford en cire.
T'aurais aimé avoir ça.
J'aurais adoré. Puis il insère dans celui-ci des petits trous qui sont animés en stop motion et qui s'élargissent au fur et à mesure pour que se découvre le vrai visage de l'acteur. Et le tour est joué, donc surtout ne tentez pas ça chez vous, sauf si Phil Tippett est à vos côtés.
Exactement.
Mais c'est à lui qu'on doit cette fameuse scène.
L'équipe montage s'étoffe ensuite avec l'arrivée d'un assistant monteur, Conrad Buff, Laurel Ladwich pour les dialogues et deux monteurs son que sont Richard Burroughs et Teresa Ecton. Le montage est cependant toujours rendu difficile par l'absence totale d'effets spéciaux terminés.
Le mois d'octobre est quant à lui un tout petit peu plus enthousiaste pour le Model Shop puisqu'on a 103 modèles qui sont terminés, dont 52 qui sont destinés à être explosés et 55 sont toujours en construction. L'infrastructure interne de l'étoile de la mort, c'est l'un des chantiers en cours, et figurez-vous qu'il mesure plus de 120 mètres de long, ça en fait des galeries.
Exactement, il y a de quoi tout faire péter. Les matte paintings font également bien leur travail, avec 5 peintures achevées ce mois-ci, donc le mois d'octobre, notamment le hangar d'arrivée de Dark Vador. La scène d'ouverture du film est en fait une succession incroyable de gigantesques matte paintings, c'est vraiment du grand art.
Alors, faut quand même avouer, Martin, que ce département, il est composé de 6 grands talents.
Oui.
6 personnes en dehors de la société ILM maîtrisent cette technique en octobre 1982. Et pour cause, on a bien fait de faire appel à elle, puisque les peintures qu'elle réalise sur du verre sont absolument sublimes de réalisme.
Serions-nous capables de les repérer, d'ailleurs, dans le film ?
Ah, je sais pas.
Je pense pas. Mi-octobre, ILM recrute Margot, prépare ton CV. 8 nouveaux membres d'équipage accostent dans ce navire où l'on travaille désormais. Cela devient une habitude pour la post-production de jour. Comme de nuit. Les traditions d'explosifs se répètent à nouveau et l'inauguration se fait avec l'explosion de l'étoile de la mort derrière un faucon Millennium, bien heureux de rentrer chez lui.
Le 2 novembre 1982, voyez comme on avance dans le calendrier, 3 semaines en avance sur le planning, John Williams rencontre George Lucas pour évoquer la musique. De nouvelles créations sont évidemment évoquées, comme le thème de l'Empereur, que nous entendrons sans doute à nouveau bientôt.
Ah, spoiler, mood.
Non, ainsi que celui de la mort de Yoda.
Et oui, ça n'est pas un spoiler pour le coup, c'est Ben Burtt qui a la brillante idée de ne pas mettre de musique sur la scène de chasse sur Endor, pensant à raison que le public serait déjà, d'ores et déjà, dans cette scène à l'intensité aussi forte que la vitesse.
J'ai oublié de dire que le public serait d'ores et déjà pris dans cette scène.
Bien entendu, ce que j'entendais.
C'est ce que tu entendais par là.
Ça allait trop vite pour moi.
Oui. Alors, lorsque les monteurs découvrent les scènes du trône de Jabba, c'est le choc. Les pellicules qui sont d'origine française sont d'une qualité exécrable. Donc, on remonte à la source du problème et figurez-vous qu'on réalise que les pellicules qui avaient été envoyées, c'était en fait des pellicules vieilles de 3 ans qui avaient été stockées dans un sous-marin en France pendant le tournage du premier Indiana Jones. C'est vous dire comme c'est vieillot.
C'est ça.
Mais une fois qu'on a identifié ce problème, on trouve d'autres pellicules, des techniciens de qualité. Et le pic de stress et la mésaventure est bien vite oublié.
Vive la France !
C'est ça. Le 18 novembre 1982, une rumeur s'étend au sein d'ILM que la scène de tempête de sable serait supprimée au montage. Et vous vous en doutez, en termes de team building, c'est pas terrible, puisque ça crée la stupeur, l'effroi, l'émotion, l'agacement, l'exaspération. Quand les équipes considèrent tout le travail effectué qui ne sera finalement pas valorisé.
Cette scène de tempête de sable, c'est suite à, lorsque les héros arrivent à se sortir du pic du Sarlacc. In fine, la scène est bel et bien supprimée afin de poursuivre le film sur un bon rythme, ce qui n'est pas faux, entre l'explosion et le départ vers Dagobah, plutôt que de briser effectivement ce rythme avec une scène de tempête où les acteurs sont, qui plus est, relativement invisibles, il faut le dire.
Le 19 novembre, l'Entertainment Research and Council in Marketing délivre une étude sérieuse à Sid Gannis, qui est le directeur du marketing, Après 324 interviews téléphoniques dans 4 villes différentes, avec un public en dessous de 30 ans à hauteur de 50%, ça c'est de la statistique, l'échantillon délivre plusieurs conclusions à propos du titre du film. Ceux qui choisissent Revenge of the Hero sont des gens de nature plutôt enthousiaste. D'autres choisissent Return of the Hero, indiquant que le mot Revenge est un petit peu trop violent. Alors, je ne sais pas quel est votre avis, mais en tout cas l'étude conclut que le titre sera finalement Return of the Jedi.
Et oui, parce qu'on considère que Revenge, ça fait plus Sith que Jedi, quand on considère
la force et la philosophie.
Exactement. Et on a bien fait au vu du titre de l'épisode 3. Entre le 15 et le 22 novembre, un nouveau montage est d'ores et déjà réalisé par Lucas, d'une durée de 2h07. Nos sources pour cette émission, à savoir l'excellent livre de Monsieur Rinsler, grand respect à ce monsieur, des livres magnifiques, on vous les conseille. Eh bien, cette source principale, ainsi que nos autres sources, ne citent pas énormément le réalisateur, Richard Marquand, comme s'il avait totalement disparu de cette post-production. Voilà quand même de quoi interloquer.
Oui, quelques enseignements sont néanmoins tirés. La scène de construction du sabre par Luke est inutile, et la production décide unanimement de tourner une scène de funérailles pour Dark Vador. Vous vous souvenez de cette scène éloquente. D'ailleurs, avec les nouvelles éditions augmentées, on voit le beau visage d'Aiden Christensen apparaître afin d'éviter de drôles théories de fans qui soutiendraient que Dark Vador reviendrait. Malheureusement pour nous, ça n'est pas arrivé.
Et Dark Vador serait sur une île avec Michael Jackson et Elvis Presley. Le vendredi suivant, bientôt connu sous le nom de Black Friday, nouvelle stupeur pour ILM, plus de 100 effets spéciaux sont impactés par ce nouveau montage, modifiés, ajoutés, voire carrément supprimés. Les employés comparent bientôt ce vendredi à un effondrement des marchés.
250 000 dollars sont jetés à la poubelle. Vous vous dites, comme nous, qu'il y a de quoi être frustré. Hein, on les aurait bien volontiers pris. Cela étant dit, ILM garde sa confiance envers le génie créateur de George Lucas et de Richard Marquand, sachant qu'en signant sur ce film, on s'aligne sur une vision et non pas sur un plan qui nous tient à cœur.
Tout beau est-elle. C'est à ce moment que Lucas s'implique totalement dans ce film et redonne espoir aux employés d'ILM. Un nouvel espoir. Il est unanimement admis que le rythme de la post-production ne sera jamais aussi bon qu'à partir où Lucas, à partir du moment où Lucas s'engage au niveau maximum.
L'équilibre émotionnel des équipes de post-production varie tout de même de l'espoir au désespoir, et notamment quand il est question du timing. Puisqu'en novembre 1982, la date de sortie du film est prévue à mai 1983. Et tous les plans doivent donc être finis pour janvier 1983, ce qui est bien sûr très très loin d'être achevé. 100 plans restent encore à faire en quelques semaines, quand 400 ont été finis en 6 mois. Super.
Là encore beaucoup de mathématiques dans cette émission.
Exactement. Mais vous vous rendez compte que qu'on parle de 100 plans ou de 400, le stress est bel et bien là.
Et oui. Décembre 1982, une initiative très corporate a lieu chez ILM, une newsletter intitulée Year of the Jedi apparaît de manière mensuelle, j'allais dire de manière sensuelle, mais non, de manière mensuelle.
Nous n'en savons rien.
Bah oui, c'est vrai. vu le costume de Leia dans cet épisode. Et donc l'objectif est de souder la communauté post-production.
Il y a des nouvelles positives dans ce bulletin. On fait mention de la ressortie triomphale de l'Empire Contre-Attaque la semaine du 19 novembre 1982. Et on célèbre en même temps le 100 millième membre du fan club américain. Maintenant, on est au 100 millième membre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hein. Les différentes conventions font rage et les membres de l'équipe y participent. Évidemment.
Et oui.
La fin de l'année 82 est aussi synonyme de très grands retours, comme celui de l'acteur Alec Guinness, vous vous souvenez, il incarne Obi-Wan Kenobi, que l'on rappelle pour sa scène d'apparition sur la planète Dagobah, et James Earl Jones fait également son retour avec l'emblématique voix de Dark Vador qu'il produit.
Fin décembre, George Lucas statue sur la durée finale du film, 2h, 13 minutes et 13 secondes. Cette durée est en réalité un petit clin d'œil au montage du film dans lequel Lucas a souvent l'habitude de retirer 13 images par seconde par-ci, ajouter 13 images par seconde par-là.
Et c'est comme ça qu'il demande au monteur de geler la durée, 2h, 13 minutes, 13 secondes, pas plus, pas moins.
Voilà.
dans ce montage. Relou. Oui, le relou, oui. Enfin, on a des obsessions comme ça, mais je pense qu'il doit en être plein. Il y a 13 toilettes, paraît-il, au Skywalker Ranch. Non, je plaisante. Dans ce montage, Lucas et son équipe perçoivent déjà ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Les paris sont lancés et on ne sait pas quel est votre avis, mais on pense que la scène du Sarlacc sera un crash complet, alors qu'elle est en finale plutôt réussie.
Bah oui.
Et on se dit par contre que certaines scènes de bataille susciteront l'enthousiasme des foules.
Le 7 décembre 1982, Mark Hamill, qui joue le rôle de Mozart dans Amadeus au théâtre de Los Angeles, reçoit une note sympathique de la production. « Nous te souhaitons un grand succès, mais ne te casse pas une jambe, nous avons besoin de toi ».
Oui, l'acteur avait alors choisi d'élargir son répertoire, comme Daniel Radcliffe le fera ensuite en apparaissant tout nu dans une pièce de théâtre à Londres.
On va vraiment croire que tu t'intéresses à ce genre de au beau monsieur, quoi.
Non, mais pas du tout. En plus, Daniel Radcliffe est tout petit, moi aussi ça n'irait pas, bref. Mais en tout cas, il veut pas se laisser marquer par le rôle particulier de Luke Skywalker. Et on voit aujourd'hui à quel point ça lui a réussi, puisqu'il est de retour, n'est-ce pas, sur son rocher en Irlande. Et on se rend bien compte que c'est pas le rôle de Mozart qui lui aurait fait gagner 250$ par autographe.
Ni 250$ par photo. Du 6 au 22 décembre, George Lucas et Richard Marquand, oui, il est toujours là, se retrouvent au Goldwyn Studios pour réenregistrer 85% des dialogues du film. James Earl Jones a l'honneur de commencer. S'en suivent Carrie Fisher, puis Anthony Daniels, le fameux.
Anthony Daniels, qui, rappelez-vous, incarne C-3PO.
Eh oui.
Il est difficile pour les acteurs de retrouver le ton d'il y a une année environ, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas parlé, quoi. Mais c'est la dure réalité des tournages. 15% des dialogues enregistrés sur le plateau seront dans le film final. Ce cher Anthony Daniels enregistre également son histoire racontée au Ewok. C'est un mélange de tibétain et d'espagnol. C'est un vrai régal, selon ses dires.
18 décembre 1982, Lucasfilm organise sa fête de Noël. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Avec Richard Marquand en guest star. Yeah! C'est également le tournant vers davantage de travail pour les départements optiques, notamment en charge de l'uniformisation de l'image. Voilà, ce qui peut poser problème, notamment sur la scène de démarrage du film.
Oui, sur Tatooine.
Sur Tatooine, merci pour la précision.
Alors que nous arrivons en 1983, ILM se prépare à attaquer à fond les derniers mois de la post-production. Comme on vous l'a dit, le planning, il est hyper serré.
Oui.
Tous les départements sont concernés, l'optique, comme on l'a dit, le département animation, mais aussi le matte painting. Et les équipes doivent jongler entre donner le meilleur d'elles-mêmes et finir le plus rapidement possible.
Et oui.
Puisque la prochaine deadline, et pas des moindres, concerne les enregistrements de musique de John Williams avec le London Symphony Orchestra, qui, elles, ne peuvent pas être déplacées.
En ce début d'année sortent les chiffres de performance du film E.T. l'extraterrestre, sur lequel, bien sûr, ILM a travaillé, et qui, en 31 semaines, réalise le chiffre d'affaires que Star Wars a réalisé en 5 ans et demi, 194 millions de dollars au box-office américain. Le point commun entre ces deux chefs-d'œuvre, Margot.
C'est John Williams attaque bientôt l'enregistrement de la bande-son du Retour du Jedi.
Il ne s'arrête jamais, cet homme.
Eh oui. Évidemment, l'enregistrement de la bande-son a lieu au studio Abbey Road et il ne chôme pas. 17 minutes enregistrées dès le premier jour. On est loin des 100 plans en 6 mois.
De 5 plans par jour.
Voilà. 17 minutes sont enregistrées donc, et notamment le thème de Yoda, le discours de l'amiral Akbar et le retour à la vie de ce cher Han Solo. Le 4 février, Williams achève son 7e jour d'enregistrement pour 2 heures de musique.
Et en ce mois de février, il n'y a plus que 6 modèles en construction pour ILM, notamment la cave du Rancor et le modèle de l'étoile de la mort. Quelques plans supplémentaires sont également nécessaires, notamment le catapultage de Boba Fett.
Bien fait pour lui.
Ouais.
Le Rancor dans sa cave est en réalité filmé en accéléré afin de lui donner une impression de poids et de mouvement. Et le tournage, lui aussi, se fait en accéléré. 90 minutes pour tourner tous les mouvements qui amènent à sa mort.
16 février, on s'approche de la deadline, le Model Shop a complété tous ses modèles, malgré quelques modifications nécessaires. Le générique de début de film est également finalisé. Comme pour les autres films, filmer le générique de début est en fait un des éléments les plus compliqués. Ça n'est plus comme sur iMovie aujourd'hui, où c'est hyper facile de faire ça.
Exactement. Avant iMovie, figurez-vous que le générique mesurait 12 mètres de long et 3 mètres de large. Imaginez-vous ça. et des nombreux tests de rapidité de caméra sont nécessaires. Ça prend évidemment, vous vous en doutez, énormément de temps.
Et oui.
Tous les autres départements de Lucasfilm sont mobilisés, le marketing, les relations publiques et la comptabilité.
Ah tiens, il en faut aussi des comptables.
Exactement, et sans doute des experts comptables, mon cher Martin. Ben Burtt finalise son montage son, quand bien même les effets spéciaux ne sont pas encore terminés.
La production est tout de même très satisfaite du son de la scène de chasse à moto sur Endor et les bouts commencent à être assemblés les uns avec les autres, si bien que les employés commencent enfin à voir la lumière au bout du tunnel.
Et oui, au dernier jour de février 1983, l'équipe de nuit est officiellement stoppée.
Le département optique a achevé 3/5 de son travail quand le département de matte painting, achève ses 5 dernières peintures. Il est temps pour ILM de faire exploser l'étoile de la mort.
Et pour cela, plusieurs caméras sont requises à plusieurs endroits de la grande miniature. Avant de faire exploser le tout, surtout, ILM installe des petits flashs à certains endroits de la structure afin de donner l'impression d'explosion interne dans le grand feu d'artifice.
Le film est projeté pour la Motion Picture Association of America. Le 17 mars 1983, le rating tombe, c'est PG, plutôt une bonne nouvelle pour la diffusion au grand public.
Qu'est-ce que ça veut dire, PG?
Eh bien, en fait, il y a PG 13, tu vois, c'est pour dire, en gros, moins de 10, moins de 13, moins de 18, quoi.
Ah, d'accord.
Et PG, eh bien, c'est pour dire...
Public général. D'accord.
Ce qui est une excellente nouvelle. Ceci dit, le coût de la notification, hein, 8000 balles, pas mal comme boulot, quand même. Tu regardes des films, ouais, non, ça, c'est grand public. Allez, 8000 balles pour moi.
C'est ce qu'il faut vraiment qu'on fasse. On va vous dire pour The Mandalorian, n'attendez plus. Le même mois, un article divulgateur publie certains des aspects de l'histoire, ce qui a le don d'exaspérer toute l'équipe de Lucasfilm.
Et oui.
Il y est dit que Dark Vador meurt dans un acte sacrificiel et qu'il revient par la suite comme fantôme de la Force.
C'est faux.
Les Ewoks sont également révélés pour la première fois.
C'est faux, puisque c'est Anakin qui revient en forme de Force.
Mais tout à fait.
Ah là là. La frustration est grande pour des équipes qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois pour délivrer la grande surprise. D'autant qu'il apparaît clair que la source vient de l'intérieur. David Prowse, es-tu là?
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, sachez que David Prowse est l'acteur qui incarne Dark Vador à l'écran et qui...
le roi.
S'était déjà lâché en matière de spoiler et de divulgachage.
Eh oui.
Bref, surprise, au moment de ce spoiler, le magazine reçoit des milliers de lettres de fans qui appellent au boycott, qui disent que c'est un scandale et qui conspuent ce vilain travail journalistique. Comme nous pouvons le voir, ce type d'article ne date pas d'aujourd'hui et l'épisode 9 est lui aussi l'objet de spoilers et on verra s'ils étaient fondés ou pas.
Il paraît que le film s'appelle « Le réveil de Skywalker ». C'est ça en plus? Ah non, c'est l'ascension!
Oh mon dieu!
Quelle tristesse! Ouais, quelle tristesse! Pardon, excusez-moi, l'ascension! Bref, 2 mois avant la sortie du film, le travail du son de Ben Burtt touche à sa fin, notamment par cette conclusion de cette foutue scène de chasse de motorbike. C'est d'ailleurs Ben Burtt qui suggère que nous devrions voir le crâne de Dark Vador lorsque celui-ci projette son maître dans le réacteur. L'aviez-vous remarqué? Puisque moi, effectivement, je n'avais pas remarqué. Et c'est assez impressionnant quand on fait un arrêt sur image et que l'éclair révèle le crâne de Dark Vador.
D'accord.
Très intéressant.
Burt réexploite ses premiers enregistrements de la respiration de Vador et les ajoute lorsque le seigneur Sith est sur le point de mourir. Ça ajoute un sentiment de fatigue mécanique qui est très, très, très perceptible. Et le mixage touche enfin, lui aussi, à sa fin.
Comme souvent dans un projet, les dernières phases sont les plus difficiles, hein, je sais de quoi je parle, particulièrement en tentant de maintenir qualité et enthousiasme en fin de mission. Certains plans rappellent les équipes d'ILM à la réalité du travail qu'il reste à accomplir.
C'est notamment le cas du TRTT qui s'écroule sous l'effet des troncs d'arbres et des troncs d'arbres à ses pieds, quoi. Le challenge est le suivant, il s'agit de concilier le stop motion du Walker qui s'écroule en image par image et la descente des troncs qui elle est filmée à vitesse réelle.
Et oui.
Le bilan, c'est 17 changements de position pour le Walker en 3 secondes de temps réel, ce qui est un vrai cauchemar.
La scène de l'explosion de l'antenne d'Andorre est savoureuse. D'abord, une peinture de verre en arrière-plan qui représente la planète. Ensuite, une maquette d'antenne impériale faite de plusieurs matériaux, mais principalement de plastique. Et ensuite, des petits arbres miniatures loués à une entreprise locale, avec promesse de restitution en parfait état. Déjà,
il faut dire
ça
que
sent bon.
ILM est une entreprise très audacieuse. La scène commence, l'explosion est lancée. La maquette se désintègre en centaines de petits bouts et brûle littéralement tous les arbres miniatures qui étaient placés en avant-plan.
Voilà.
Alors l'effet est tout à fait satisfaisant pour l'équipe qui réalise le plan en une prise, ce qui est beaucoup moins satisfaisant pour l'entreprise locale qui, vous vous en doutez, réclame réparation.
Et qui obtiendra réparation. 5 avril 1983, le final cut, c'est-à-dire le montage final, est approuvé par Lucas, qui finalement change un peu sa durée, 2h, 16 minutes et 9 secondes. Le travail de finalisation commence afin d'envisager une livraison rapide pour les cinémas. Le 9 avril 1983, projection test avec 250 employés d'industrie, 12 libraires, 150 étudiants, 150 enfants et beaucoup d'amis d'employés de Lucasfilm. Quel dommage que nous n'y étions pas.
Alors, tous les chanceux reçoivent un carton d'invitation pour un film d'animation Lucasfilm qui s'intitule Twice Upon a Time. Et au jour de la production, le producteur, Howard Kazajian, leur annonce l'annulation de la projection. L'audience est évidemment très très déçue, mais elle cède à l'hystérie lorsqu'on leur annonce à la place la projection du retour du Jedi.
Les réactions sont dithyrambiques, notamment lors de la jetée de l'Empereur par Vador, rassurant ainsi les équipes quant à la réaction du public. Sur 720 notes, 626 attribuent la note « excellent » au film.
Il n'y a aucun vote pour la note « pauvre ».
Eh oui.
Les Ewoks sont notés comme étant les personnages préférés du film, suivi par Luke, puis Vador. C-3PO est noté comme le pire personnage, ce qui ne manquera pas d'émouvoir Anthony Daniels. Et la scène préférée reste le duel entre Luke et son père.
Les points négatifs tout de même. Jabba est estimé trop grossier. Le chant final des Ewoks ne remporte pas l'unanimité. Et une partie du public est déçue que Leia n'ait pas vu le visage de son père.
Ça, c'est plutôt intéressant.
Tout à fait. Tout à fait.
Alors, il y a une autre personne du public qui trouve que Dark Vador dit trop souvent « You underestimate the power of the dark side ».
C'est vraiment pas faux non plus.
Tout à fait. Les femmes se plaignent du manque de présence féminine. Tout à fait.
Qu'en penses-tu ?
Quand on voit la façon dont Leia, cette pauvre Leia, apparaît au début du film.
Tout à fait.
Mais je ne veux aucun commentaire de tous ces hommes qui ont fantasmé sur cette chère Carrie Fisher pendant des années.
Je ne suis pas comme ça.
Bien sûr. Après la projection, on décide de supprimer la scène de création du sabre de Luke, et c'est une scène durant laquelle Vador entre en contact avec lui par télépathie.
Et il lui dit « You're underestimate the power of the dark side ». Comme à son habitude, Lucas reste pessimiste dans les journaux quant au succès du film, cachant peut-être une dépression liée à la fin de cette grande aventure.
Et oui, et le marketing fait maintenant son travail de propagande dans le monde entier et se prépare à la sortie du film. On investit 11 milliards de dollars de publicité dans les journaux, 4 millions de dollars pour les spots TV. Des accords commerciaux sont passés avec des entreprises qui n'hésitent jamais à se mettre sur les bons coups. Des entreprises dont l'éco-responsabilité reste toutefois approuvée. On cite notamment Coca-Cola, Burger King, Procter & Gamble.
Plus de 100 sociétés sont labellisées pour participer à la promotion, ajoutant ainsi 250 millions de dollars de merchandising. C'est parfait. Elles sont d'ailleurs très inquiètes par rapport aux Ewoks, notamment du fait d'un contexte de saturation du marché des ours en peluche. Winnie étant en tête.
Alors, ne vous en faites pas, Disney, avec des problèmes depuis. Ouais. Le 25 mai 1983, le retour du Jedi sort en salle. Il n'y a pas beaucoup de concurrence en face. Les studios ont retiré leurs gros films pour éviter une compétition forcément perdante.
La Jedi hystérie commence, les lignes se forment, les rumeurs vont bon train. À Atlanta, 1000 personnes font la queue pour assister à la première et ces queues se répètent dans tout le pays.
La première projection a lieu en présence de l'équipe au Egyptian Theater et elle réunit le gratin d'Hollywood afin que nombre de fans du monde entier, des gens qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, d'Australie, d'Aubernais où nous vivons, et les critiques de presse sont mitigées.
Notamment Télérama qui attribue un seul T. Qu'importe, les records de box-office sont atteints. 6 millions de dollars le premier jour, 1000 cinémas projettent le film aux États-Unis et au Canada. Une semaine après exploitation, 45 millions de dollars amassés. Deux semaines après, 75 millions de dollars. Le succès
est en marche et ne s'arrêtera plus jusqu'à aujourd'hui.
Alors nous ne pouvons pas clôturer ce podcast sans avoir une pensée émue pour Richard Marquand, le réalisateur de cet épisode 6 du Retour du Jedi, qui a rejoint la Force peu après la sortie du film, le 4 septembre 1987, à l'âge de 49 ans.
Et oui.
May he rest in peace and force.
Exactement. Ceci conclut cette édition de Star Wars en direct, Making of, épisode 9 post-production du Retour du Jedi. Une page se tourne également pour nous, même si, eh bien...
Nous vous retrouverons.
Peut-être on va poursuivre en fonction des retours des gens et du maître et du leader suprême, Dany, si tu nous entends. En tout cas, je te remercie, Margot, d'avoir participé à cette émission.
Moi, je te remercie. Je remercie Dany pour sa confiance et vous aussi qui nous écoutez et qui nous faites un petit peu vibrer quand même.
Les discussions se poursuivent, évidemment, sur le site web, sur Facebook, sur Twitter. Et comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com ou laissez votre message sur nos réseaux sociaux.
Et oui, Facebook, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux.
Pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements live, rejoignez notre serveur Discord. Et puis, pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et des produits dérivés Star Wars en direct, ainsi qu'un visage de Han Solo...
En cire.
En cire, exactement.
Qui se découvre petit à petit grâce à ce cher monsieur dont nous avons parlé avant. Et c'est le vrai visage d'Harrison Ford, jeune, qui apparaîtra devant vous.
Eh oui, exactement. Donc nous sommes disponibles pour écouter cette émission sur iHeartRadio, plus Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez nous entendre partout.
Tout à fait. Vous pouvez nous entendre partout et nous remercions nos partenaires siteclan.net, mintinbox.net, starwarsonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geek Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science Fiction. Merci beaucoup pour leur soutien.
Nous vous retrouverons après, vu le rythme auquel on va, après les fêtes de fin d'année. Donc, joyeux Noël à vous, belle fin d'année et bon début d'année.
Belle fête de fin d'année, soyons œcuméniques. Puissiez-vous passer de belles fêtes dans la force et dans l'amour.
Eh oui.
De la part de Martin et moi-même, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
Et que la force soit avec vous.